Voilà, bonjour à toutes les personnes que j'ai pas pu saluer ce matin. Hop. Alors nous sommes toujours dans la série de Marc. Le dimanche dernier, donc David nous a présenté en fait l'arrivée du roi, l'arrivée de Jésus-Christ dans la capitale, à Jérusalem. Et par la suite, je vais vous parler les suivants chapitres. Je remercie encore pour tous les frères, tous ceux qui ont mis à cœur en fait et mis à part aussi ce temps-là pour travailler et étudier la parole. Donc Pierre, Philippe, David, Colin et Jérémy et d'autres. Et on continue donc sur cette série de Marc. Et donc, voilà, ouais, c'est le chapitre 11, 12 à 26. Donc j'ai donné un titre, on a donné un titre à ces versets, c'est « Pâques sous l'angle du grand chamboulement apporté par Jésus ». Et si Jésus avait fait un miracle de trop? C'est vrai, Jésus fait toujours des miracles pour faire du bien, pour guérir, pour transmettre un message positif, pour susciter la foi. Or, dans les derniers miracles de Jésus que Marc nous rapporte, cela ne se passe pas comme ça. Jésus va même apparemment, si ce n'est faire du mal, en tout cas dire du mal. Sa parole étant efficace, c'est un figuier qui va en subir les conséquences. Pour lui, ça sera la fin. Nous avons vu auparavant dans la série de Marc que Jésus a accompli toutes sortes de miracles. Des miracles de guérison, d'exorcisme, de résurrection. Mais Jésus va aussi guérir les lépreux, rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, faire marcher des paralytiques et bien d'autres. En plus de ces miracles de guérison, des miracles d'abondance, où Jésus multiplie, fait du bien comme lors des deux multiplications des pains, quand Jésus change l'eau en vin ou encore quand il contribue à deux pêches miraculeuses. Il y a aussi des miracles où Jésus agit sur les éléments, quand il marche sur l'eau et puis quand il calme la tempête. Enfin, il en reste un. Celui qui me dérange, peut-être celui qui te dérange, c'est un miracle de destruction, de malédiction, le seul miracle avec une action négative de la part de Jésus. Est-ce un acte gratuit? Un caprice? Et puis quel message spirituel peut-on retirer de cet épisode? Celui du figuier maudit. Je vous invite à prendre vos Bibles, sinon c'est affiché, à lire Marc chapitre 11, versets 12 à 26. Marc 11, 12, 26. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de les faire périr. Car ils craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ainsi est la parole. Je suis vraiment étonné devant une telle attitude de Jésus. Malgré cela, si tous les miracles ont une utilité et sont porteurs d'un message pour nous, je veux croire que par ce récit, nous pouvons nous laisser interpeller. Ce que je retiens avant tout, autre chose, c'est vraiment la surprise devant un tel miracle. Jésus est un homme de surprise. Dieu est un Dieu de surprise. On le trouve là où on ne le sent pas, là où on ne l'attend pas forcément. Il agit d'une manière imprévisible et nous étonne. Cela nous secoue parfois et du coup nous éveille pour que nous puissions voir ce qui est invisible à l'œil nu. Jésus n'est pas un homme de routine. Sa créativité et les ressources insondables qui sont les siennes suscitent parfois notre surprise. Nous l'avons vu dès le commencement dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 15. Dès que la foule vit Jésus, il fut surprise. Jésus ne cesse de créer la surprise. De chapitre en chapitre, de village en village, il étonne, surprend les gens autour de lui par sa manière de guérir ou d'enseigner. Qui est donc cet homme? Colin nous l'a rappelé dans son message à travers la réponse de Pierre. Tu es le Christ. La réponse de Pierre est immense. Tu es celui que nous attendons. Tu es le Christ, le roi, le seul capable de régner avec justice sur le monde. Ce matin, je t'invite à te laisser surprendre par le roi des rois, celui qui veut être le roi dans ta vie. Es-tu vraiment prêt à accepter d'être surpris, à voir ce que ces gens ont vu? Je t'invite à regarder ce qu'il est venu faire pour toi, pour moi. Il n'est pas venu là pour te maltraiter, ou pour te culpabiliser. Bien au contraire, il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour être le roi de nos vies. Mais comment comprendre? Comment se laisser surprendre par ce miracle du dessèchement du figuier? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous propose que l'on remette en place ce que l'on pourrait observer comme des différentes pièces du puzzle qui nous est proposé afin de discerner de quoi il est question. Le plan que je vous propose, c'est en 5 points pour comprendre ce message. Le figuier printanier. Le figuier, une image du peuple de Dieu. La temporalité du miracle, l'omniprésence du thème du temple et le rétablissement d'un vrai culte. Quel est donc ce figuier? La première pièce de ce puzzle que nous voulons essayer de remettre en place concernant le contexte de notre récit, il s'agit de savoir ce que sont les figuiers printanières. En effet, ce récit a lieu juste avant la Pâque. C'est donc le printemps. Or, quelle est la saison des figues? C'est l'été qu'elles mûrissent. Regardez avec moi au verset 13. Apercevant, donc Jésus, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison. Jésus ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Un botaniste italien a observé que certains figuiers, comme le figuier très fier, fournissent des figues 3 fois dans l'année, en juin, en automne et un petit peu au printemps. Puisque Jésus a vu des feuilles à ce figuier ce matin-là, en se rendant à Jérusalem, il a pu espérer y trouver aussi des figues printanières. Ce n'est donc pas si déplacé que cela que Jésus ait pu espérer cueillir des feuilles, des figues. Maintenant, si cela explique en partie pourquoi Jésus s'est approché du figuier, cela ne nous dit pas pourquoi il a eu cette réaction négative en voyant que le figuier ne portait pas de fruits. La deuxième pièce du puzzle à prendre, pour bien comprendre le message de ce texte, il faut se souvenir que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament est plusieurs fois comparé à un figuier. On peut même dire que le figuier est similaire au peuple de Dieu, si ce n'est pas le seul symbole, mais un symbole fort. Écoutez la prophétie de Jérémie. Ça n'a pas marché, hop. Dans Jérémie, chapitre 8, au verset 13, qui prophétise de la part de Dieu contre le peuple, je lis « Je veux en finir avec eux, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. » Ou encore, le prophète Osée qui dit au chapitre 9, au verset 10, « Écoutez, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos ancêtres, c'est-à-dire vos pères, comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus aussi détestables que l'objet de leur amour. » Si Israël est plus d'une fois comparé à un figuier, et plus spécialement aux figuiers printanières, l'acte de Jésus devient un symbole. Face à ce figuier qui ne porte aucun fruit, mais qui avec ses feuilles ne fait qu'attirer le regard, avec une apparence trompeuse, l'acte de Jésus est tout sauf anodin. ce que Jésus est en train de faire est trop fort. Il est en train de dire, les hommes, les femmes, les peuples qui ne portent pas de fruits n'ont pas vocation à vivre. Et cela nous amène à la troisième pièce du puzzle. C'est une forme d'anticipation du jugement qu'il faut amener à ce moment précis. C'est justement le fait que ce miracle se passe à peine 3 jours avant sa propre mort et que Jésus maudit ce figuier juste à le faire mourir. Au verset 20, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Cela atteste, selon de nombreux auteurs, le fait que ce que Jésus va vivre à la fin de la semaine est déjà symbolisé dans cet acte. Jésus veut dire que par sa mort, il va y avoir un changement radical. Une nouvelle ère va commencer. Le temps de la gloire, du règne est proche. Par sa mort, il y aura, malgré tout, la victoire. Mais que sa victoire et la victoire qui nous concerne implique précisément sa mort. Par ailleurs, il est intéressant de savoir que pendant toute l'histoire de l'humanité, on s'est interrogé sur la nature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre mentionné dans la Genèse dont Adam et Ève ne devait pas manger le fruit, mais qui a causé la chute. Traditionnellement, on parle souvent de cet arbre comme étant un pommier. Cela vient peut-être du fait que, en latin, le mot malum veut dire à la fois le mal et pommier. Par contre, la tradition juive y voit souvent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un figuier qui est présenté comme l'arbre qui a permis à Adam et Ève de couvrir leur nudité, une fois le fruit défendu, consommé. C'est un des arguments principaux, mais cette conviction que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un figuier, alors qu'il le soit ou pas, si le figuier était considéré comme pouvant être l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jésus, en maudissant cet arbre et en le faisant devenir sec jusqu'aux racines, est en train de dire « Je suis en train de passer à une nouvelle étape, un nouveau règne approche. L'étape où la cause du péché qui était cet arbre symboliquement est anéanti d'une certaine manière par cet acte. Ce dernier miracle de Jésus, tel que Marc nous le rapporte, n'est assurément pas celui de trop. La quatrième pièce du puzzle à prendre en compte est l'omniprésence du temple. Dans le verset qui précède le récit, au chapitre 11 toujours, au verset 11, je lis « Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. » Qu'est-ce qui se passe ? Ce verset-là, moi, me questionne en fait. Ben rien. Il a juste observé et il est sorti. C'est assez curieux, mais on le comprend après dans la lecture. Juste après les 2 étapes dans ces épisodes, mais surtout entre les 2 moments qui concernent le figuier, se place l'épisode en fait d'un problème dans le temple. Mais quel est le problème ? Regardez avec moi. Hop. au verset 15. Il arriva à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce sont des paroles très fortes, très violentes, venant de la part de la bouche du Messie. Ne retenir que la colère de Jésus serait réducteur, tant la situation est complexe. Il faut aussi observer dans quelle partie du temple se déroule la scène. Cette cour extérieure, aussi appelée le parvis des gentils, était un lieu important, un lieu sacré, en fait. C'est un lieu auquel on pouvait accéder les pèlerins juifs et les non-juifs. C'est là aussi où les animaux devaient être offerts en sacrifice. La plupart des gens achetaient des animaux dans cette cour parce qu'ils avaient marché plusieurs jours. Ils choisissaient un agneau ou un bouc mâle d'une année, sans aucun défaut. Ces animaux n'auraient jamais supporté la route. Les bureaux d'échangeurs de l'époque s'expliquent par le fait que le shekel du temple était la seule devise acceptée pour l'achat des animaux. Tous les étrangers devaient donc passer par ce bureau de change où les taxes étaient très élevées. C'est donc dans ce bazar que Jésus et ses disciples arrivent. Imaginez-vous la scène. Le Seigneur voit immédiatement l'exploitation, la corruption d'un endroit qui devait être propice à la méditation, à la prière et à l'introspection du cœur, un lieu sacré. Il voit les inspecteurs du temple qui trouvent systématiquement des défauts aux animaux afin de forcer l'achat des bêtes vendues 3 fois plus cher. Il voit les changeurs de monnaie faire pour eux-mêmes un profit inacceptable en augmentant les taxes du change. Jésus est outré, animé d'une sainte colère, car la maison de Dieu n'est pas honorée comme un lieu sacré. L'homme a perdu le sens de sa présence de Dieu dans la maison qui lui a été dédiée. Le temple de Jérusalem, la capitale, était alors un carrefour mondial pour la nourriture spirituelle du peuple. Alors que la religion qui fait office à cette période dans le temple détourne cette fonction de carrefour nourricier spirituel du monde. Dans le récit de Marc, l'épisode de la malédiction du figuier encadre celui du temple. Cela signifie donc que l'intervention de Jésus dans le temple doit se lier en lien étroit avec sa parole sur le figuier. Dans ce contexte, on peut comprendre que le jugement de stérilité porté contre le figuier est une métaphore pour désigner le temple, l'édifice symbole où se décide jour après jour la vie religieuse du peuple. Vous comprenez un petit peu le raisonnement maintenant ? Jésus n'est pas venu juste pour détruire. Il est venu aussi dans le temple pour enseigner. Regardez avec moi au verset 17, et Jésus rappelle la prophétie de Jérémie et d'Ésaïe. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Dans le temple, il y a eu du monde, chacun à sa place et dans son rôle, mais sans pour autant produire le fruit d'une vie réellement transformée. La religion se porte bien en apparence, mais les cœurs sont durs, les cœurs sont mauvais. Il n'y a pas de changement intérieur comme le figuier. Il y a beaucoup de feuilles et ça paraît bien de loin, mais il n'y a pas de fruits, pas de transformation, pas de changement au niveau du cœur. Les cœurs sont comme un arbre desséché. La malédiction du figuier en est une image. Il est asséché. Et pourtant, le temple est un lieu symbolique de la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et les hommes. Le temple est comme un arbre qui relie la terre au ciel. Les grands prêtres et les scribes y enseignaient des œuvres religieuses plutôt qu'un changement de cœur. Or, Jésus chasse cette doctrine d'un revers de la main. Jésus est en train de nous dire que si notre arbre de vie ressemble à l'attitude des gens, des grands prêtres et des vendeurs du temple, alors notre arbre est destiné à mourir. Il faut même qu'il meure. La relation à Dieu n'est pas une apparence comme celle enseignée par les grands prêtres. Elle n'est pas un marchandage comme avec le marchand du temple. C'est une question de cœur et de foi. Aucune église ne peut croire être à l'abri de ce que Jésus révèle en parole et en acte dans ce récit de Marc. D'où la question pour nous. Est-ce que la parole de Dieu est prêchée dans notre Église? Est-ce que nous aimons écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous aimons le culte de dimanche? Est-ce que nous aimons louer le Seigneur avec un cœur sincère? Est-ce que nous aimons prier? Est-ce que nous aimons partager la parole de Dieu? Quel culte personnel offrons-nous à notre Dieu? Est-ce que je vis ma foi dans mon quotidien? Jésus qui a faim, c'est l'image de son désir de nous voir fidèles à ce qu'il attend de nous. Comme on plante un figuier dans le but d'en récolter et d'en manger le fruit. Dieu a planté une semence dans son peuple. Il sème encore sa semence en nous. Que devient-elle? Un figuier avec des feuilles seulement? Ou avec des fruits? Même si nos vies ont une apparence florissante, sont-elles vides intérieurement ou remplies de la sève spirituelle? À Jérusalem, le temple était devenu une caverne de voleurs. C'est un choc didactique que veut provoquer Jésus. Il est en train de dire que le vrai temple est mon cœur, c'est ton cœur. Le temple, comme le figuier, n'était plus un moyen de se relier à la source de vie. C'est ce qui arrive lorsque la religion devient une fin en soi. Pour se replier sur elle-même et y enfermer la foi, voire même l'étouffer. C'est ce qui nous amène à la cinquième et dernière pièce du puzzle pour comprendre pleinement le message. C'est le rétablissement d'un vrai culte. Comment Jésus rétablit le vrai culte? Jésus, le roi véritable, n'est pas venu juste pour détruire, juste pour dénoncer ce qui existait déjà. Il est venu pour rétablir le culte véritable, le culte authentique. C'est ce qu'il commence à faire dans le verset 22 à 25. Regardez avec moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment la surprise, comment Jésus transforme le signe de destruction le signe du figuier maudit transformé, le signe de la destruction, à une promesse de rétablissement. Ce miracle de figuier desséché n'est pas un miracle de puissance de la part de Jésus. Encore moins le caprice d'un Jésus qui serait frustré de ne pas trouver de figues pour son petit déjeuner. Au contraire, il fait un acte symbolique d'une puissance spirituelle très profonde. Au moment où Jésus dialogue avec ses disciples devant le figuier desséché et qu'il prononce cette phrase au verset 22 et 23, « Si vous avez suffisamment de foi en Dieu, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là. » Eh bien, la montagne que Jésus a devant lui n'est d'autre que la colline du temple. Jésus nous invite à comprendre la raison d'être du temple et de la vie spirituelle. Une relation authentique avec une foi en Dieu qui génère des fruits. Si nous avions vraiment la foi, nous pourrions nous débarrasser de tous ces figuiers stériles, retirer l'apparence, la poudre aux yeux que nous jetons à nous-mêmes. Nous pourrions jeter à la mer ces montagnes de tout ce qui fait obstacle à Dieu, ainsi que le demande Ésaïe au chapitre 40, que toute montagne soit abaissée pour préparer la route au Seigneur. Et comment est-ce que cette puissance va se manifester? Comment est-ce que de telles choses vont arriver? Regardez le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est par la prière. Pour prier, nous avons besoin d'un cœur bien disposé à s'ouvrir. Rien de ce qui est religieux ne coûte quoi que ce soit. L'accès à Dieu, aux autres et à soi est toujours immédiat. C'est dans le même sens que Jésus nous dit qu'il faudrait pouvoir jeter dans la mer toutes les montagnes d'inutilité, d'égoïsme et de stérilité qui nous habitent. Le figuier desséché, le signe du pardon offert, c'est ce que nous venons de voir à la fin du dialogue avec les disciples devant le figuier desséché. Au verset 25, « Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Comme Dieu nous pardonne nos péchés, nous sommes invités à nous pardonner réciproquement. La parallèle entre le figuier et l'arbre en Éden met en évidence l'idée que le pardon de Dieu a asséché grâce au sacrifice de Christ, notre passé stérile, afin de nous rendre féconds et que nous puissions à notre tour être à même, d'offrir notre pardon. Nous sommes maintenant libres, n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Nous pouvons nous approcher de Dieu comme s'il était devant l'autel à Jérusalem. Incroyable, un culte ouvert, en libre accès. Jésus nous fait comprendre que la question du fruit est d'abord une question de santé profonde de l'arbre. Pour porter de fruits, nous devons nous abreuver à la source d'eau vive. D'où la question de l'application pour nous. Quel figuier sommes-nous? Est-ce que nous sommes un figuier qui ne porte que des feuilles pour l'apparence, ou est-ce que nous voulons être un figuier qui porte des fruits? Non par nos propres moyens, mais parce que nos racines sont ancrées en Jésus-Christ, parce que notre cœur est le véritable temple, parce que ce qui compte d'abord, ce ne sont pas nos actes extérieurs, mais la foi que Jésus suscite. Si jamais il nous arrive d'être un figuier stérile, eh bien Jésus est prêt à faire mourir ce figuier-là en toi, pour faire renaître l'arbre fécond et fertile que le Seigneur désire que tu sois pour sa gloire. Amen. Je vais prier. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour ce passage qui est à la fois complexe et à la fois simple. Merci, Père, parce que tu nous montres encore une fois ce que nous sommes et ce que tu veux que nous soyons. Aide-nous à être et non pas à paraître. Aide-nous à ne pas être, mais être au fond de nous ce que tu veux que nous soyons. Oui, Père, viens à chacun d'entre nous. Prends cette place de roi dans nos cœurs. Guide nos vies. Et que nous puissions, Seigneur, nous détourner des choses du monde, mais nous centrer sur toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta présence. Aide-nous à détruire tous ces figuiers, ces arbres que nous avons. Sèche-les pour que nous puissions venir à la source de la vie et que la sève du cœur puisse porter du fruit pour ta gloire. Merci Père pour ce texte, merci encore pour ce témoignage. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Aide-nous Seigneur à tenir ferme. Aide-nous à porter du fruit et que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Je te remets encore cette semaine entre tes mains. Veuille nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen.